Pour mémoire, être en Christ, être en Jésus, c'est quelque chose de vital pour le chrétien. On ne peut pas vivre une vie chrétienne, on ne peut pas connaître Jésus, on ne peut pas connaître l'abondance de la vie qu'il y a en Dieu sans être en Jésus, sans être passé par la croix, sans connaître véritablement cette proximité, cette intimité avec lui. En Jésus, nous avons tout et nous avons tout pleinement, c'est-à-dire qu'il ne nous manque rien. Nous avons en lui, l'apôtre Pierre dira que nous avons tout ce qui contribue à la vie et tout ce qui contribue à la piété. En lui, nous avons la guérison de nos corps, en lui nous avons la guérison de nos cœurs, en lui nous avons la capacité de supporter les épreuves, en lui nous avons la capacité de marcher fidèlement, en lui nous avons cette promesse qui est extraordinaire de l'héritage qui nous est réservé en haut. De l'héritage de la vie éternelle. C'est une certitude. Et l'apôtre Paul, dans la première partie du passage que nous venons de lire, s'attache à décrire d'une manière grandiose l'œuvre de la croix, en montrant ce qu'elle nous procure, en nous montrant que Jésus a payé notre dette, a payé à notre place. Et c'est fabuleux. Nous n'avons plus matière à être accusés par qui que ce soit à cause de nos actes passés. La dette a été payée, ne l'oublions pas. Cet acte du juridique a été déchiré. Il n'y a plus rien entre nous et Dieu. Et comme je le disais lors d'une de mes prédications, si le diable allait devant Dieu en disant « T'as vu Jean-Luc un petit peu, toutes les bêtises qu'il peut faire, tous les péchés qu'il peut commettre ?» Dieu ne serait plus redevable et il pourrait lui répondre « Oui, mais entre Jean-Luc et ses fautes, il y a Jésus. Il y a Jésus. Le contrat qui nous condamnait, est définitivement cloué et déchiré. » Et après cette vision glorieuse, l'apôtre Paul revient à quelque chose d'extrêmement terre à terre. Et c'est ce qui m'a marqué en relisant ce passage pour la énième fois. Il va dire, il y a la gloire d'en haut, mais vous, votre problème finalement, c'est la manière dont vous gérez les choses d'en bas. C'est-à-dire que personne ne vous juge, que personne ne vous condamne à propos de rites que vous accomplissiez ou pas. Les Colossiens avaient quelques problèmes parce que, étant en Christ, ils n'accomplissaient pas certaines choses. Et Paul dira que ces choses bassement matérielles ne viennent pas se mettre entre la croix et vous. Et finalement, tout l'enjeu de notre vie spirituelle, c'est ça. C'est que rien ne vienne se mettre entre Jésus et nous. Que rien ne vienne nous faire sortir de cette position de foi. Que rien ne vienne nous faire nous déloger de la cachette que nous avons en Jésus. Souvenez-vous, nous sommes cachés au cœur du rocher. Il y a la tempête qui tombe de partout. Et nous, on est bien blottis. On est bien blottis en lui. On assiste au tonnerre, ou plutôt aux éclairs. On entend le tonnerre et on voit les éclairs qui tombent. Et nous, on est tranquillement dans la grotte du salut avec notre Dieu et avec notre ami Jésus-Christ. Être en Jésus, c'est là notre sécurité. Et la question que je me suis posée, c'est de savoir qu'est-ce qui serait susceptible ou qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'aujourd'hui nous soyons une cible facile pour l'ennemi de nos âmes ou tout simplement pour notre chair. Qu'est-ce qui a pu faire qu'aujourd'hui, parfois, nos cœurs sont susceptibles de vaciller? Qu'est-ce qui a pu faire que les traits enflammés du malin, que les circonstances de la vie sont capables de nous toucher, de nous faire tituber et peut-être même de nous faire mettre le genou à terre, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être le cas? Plusieurs choses sont venues à mon esprit fécond. Première chose, c'est tout simplement notre histoire. Dans la semaine, j'avais l'occasion de discuter avec un homme, un converti, et puis il me disait « Oui, mais moi je ne suis pas né chrétien. » Et la réponse que je lui ai faite, c'est « Si, tout le monde naît chrétien. » Un petit peu provocateur, le pasteur. Et de lui expliquer que dans le cœur de tout homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Et qu'à un moment ou un autre, je défie quiconque ici, dans cette salle, de me dire qu'il n'a pas eu cette pensée d'une éternité ou cette pensée qu'il pouvait éventuellement exister un Dieu à un moment ou un autre. On a tous une histoire avec Dieu. Elle peut être très longue, comme elle peut être très courte. Les disciples, et on le retrouve dans les évangiles, ont eu une histoire de 3 ans et demi avec Jésus. Et ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu des boîtes marcher, des aveugles voir. Ils ont vu des foules venir. Ils ont vu des peintres multiplier. Ils ont vu des choses fabuleuses. Et puis, ils ont surtout vu bien des soldats venir à Gethsémané, enlever le maître. Et là, ils se sont tous enfuis, hormis deux. Et encore un, eh bien, va capituler en cours de route. C'est Pierre. Ils ont également, eh bien, deviné la croix. Ils ont également deviné le maître mort. Et que vont-ils faire dans cette histoire ? Cette histoire entre Jésus et les douze va être interrompue. Et ils vont revenir à leurs vieilles affaires. À un moment donné, il y en a un qui va dire, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, si on retournait pêcher. Ah ouais, bah, c'est plutôt une bonne idée, j'arrive. Et ça peut parfois symboliser notre vie avec Jésus. On peut marcher avec lui en cœur à cœur, en croyant de tout notre cœur à l'efficacité de la croix. Puis pour une raison ou pour une autre, on retourne à nos anciennes affaires. Parce qu'on en a pris plein la figure. Parce qu'on a été déçus. Parce que nos espoirs ont été crucifiés. On en retourne à nos anciennes affaires et il y a une distance qui se met. On sait qu'il y a eu quelqu'un, on sait qu'il y a quelqu'un effectivement. Et cette réalité est morte, comme les disciples pensaient que leur maître était mort. Et je crois, mes amis, mes frères et sœurs, que l'on peut être chrétien. Je le crois de tout mon cœur. On peut avoir le titre, mais en ayant mis un terme, ou alors en conjuguant notre histoire avec Jésus au passé. Mais ce qui est fabuleux dans l'histoire des disciples, c'est que, alors qu'ils étaient en train de pêcher, qu'ils n'avaient rien pris, tout d'un coup, un homme va leur dire, et si vous jetiez le filet sur la droite, là, retournez-y, vous verrez, il se passera quelque chose de chouette. Et ces hommes vont le faire, et là, il va y avoir une pêche extraordinaire. Ils vont sortir plein de gros poissons. Et puis lorsqu'ils arrivent sur la plage, et notamment un, Pierre, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un feu avec du pain et des poissons. Tout était préparé pour que l'histoire reprenne. Tout était préparé pour que l'histoire reprenne. Vous savez, avec Jésus, il y a toujours un feu qui est prêt. Il y a toujours des poissons qui sont prêts pour que l'histoire puisse reprendre. Toujours. Il y a toujours cette possibilité. Vous savez, la croix, elle ne bouge pas. L'œuvre de la croix, elle ne bouge pas. Elle reste toujours, elle est intemporelle. Elle reste toujours aussi puissante malgré le temps qui passe. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et mon frère, ma sœur, mon ami, Jésus souhaiterait tellement que tu reprennes l'histoire qu'il avait commencée avec toi. Souhaiterait tellement que tu reprennes la marche qu'il a commencée avec toi. Tu l'as arrêté pour des raisons qui te paraissent totalement légitimes. Ils le sont certainement. Mais sache que devant toi, il y a une belle plage. Et par le temps qui court, c'est fabuleux, avec un beau soleil. Hein ? Et un bon repas qui est prêt. Notre histoire. Avec tout ce que l'on a pu vivre. Deuxième raison, et on le voit un petit peu dans le texte que l'on a lu, c'est tout simplement les hommes. Dans l'église de Colosse, c'était introduit des hommes qui prêchaient le retour à la pratique des rites. Il faut faire, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Bref, un retour à la loi. Et combien de religions sont basées sur des pratiques similaires ? D'autres, toujours dans l'église de Colosse, mettaient une part prépondérante sur le culte des anges. Les anges auraient eu une place particulière, auraient pu servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'était une forme de culte, de tout ce qui est surnaturel. Bref, toujours cette tendance pour les hommes à mettre des intermédiaires entre Dieu et nous. Incroyable, ça, hein ? Et pourtant, l'apôtre Paul dira, toutes ces choses-là n'ont pas vocation à être. Et c'est pour cela qu'il prend la peine de détailler l'œuvre de la croix. Vous savez, entre nous et la croix, il peut y avoir des doctrines, mais il peut y avoir les hommes également, tout simplement. Et l'apôtre Paul dira, ne soyez pas attachés à ces hommes, mais soyez attachés au corps. Soyez attachés au corps. Soyez attachés à l'Église. C'est ainsi, soyez attachés à la doctrine. Et quand on y réfléchit un petit peu, et mon lourd passé d'enfant de pasteur, parce que vous savez, c'est un lourd passé hein, d'être un enfant de pasteur, on s'aperçoit que dans nos vies d'église, il faut toujours être attaché, non pas au sarment, mais toujours au cep. Toujours. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce que l'on peut lire, peu importe ce que l'on peut voir, la nécessité, c'est de toujours être attaché au cep. Et de toujours rester attaché au corps. L'avantage, c'est que si un jour un sarment venait à être retranché pour une raison ou pour une autre, étant donné que je suis attaché au cep, moi je resterai attaché au cep. Certains parmi vous pourraient me dire « Oui, mais on a besoin d'avoir des choses. » Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui n'est pas, finalement. Paul prend l'image du corps, ce qui n'est pas la tête. Paul dira aux Colossiens « Soyez attachés au corps qui, lui-même, fonctionne d'après la tête. » Et j'ai essayé de me demander un petit peu qu'est-ce qui n'est pas la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne doit pas guider, comment dirais-je, notre communion avec Dieu. Bien souvent, on ne va à la croix que par des moyens. On ne va à la croix que par des canaux. C'est les sarments. En réalité, nous devons être attachés directement à la personne. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ? L'atmosphère spirituelle d'une église, ce n'est pas la tête. Elle peut changer. Elle peut varier. Elle peut finalement changer de nature selon les circonstances que l'Église peut vivre. L'Église, je vous le rappelle, théologiquement, est une personne. Et de ce fait, une personne, elle a des hauts, elle a des bas, elle est en bonne santé, elle est en moins bonne santé. C'est comme ça. Et être attaché à la tête, être attaché au corps, c'est finalement ne pas uniquement tenir compte de ce que l'on peut ressentir ou vivre. Deuxième chose, la communion fraternelle favorise, mais ne détermine pas notre attachement au corps. Ça n'est qu'un moyen. On ne vient pas et on ne fréquente pas le corps de Christ en fonction parce que la main qui est à côté de nous ne plaît ou parce que l'oreille qui est à côté de nous est sympathique. Ce n'est pas du tout le cas. Mais on fonctionne par un lien qu'il y a entre la tête. C'est la tête qui nous intéresse. Il en va de même des ministères. C'est exactement la même chose. Je suis au regret de vous dire que les ministères sont profondément faillibles. Je casse un mythe. Je suis désolé. Je suis faillible. Je suis faillible. Et je le serai encore, demain et après-demain, jusqu'à ce que le Seigneur m'entraîne dans la gloire. Et mon successeur, lorsqu'il sera arrivé, ça sera exactement la même chose. Il sera profondément faillible. Et c'est comme ça. Et on ne s'attache pas à une église pour un bonhomme, mais on s'attache parce que, à la tête de l'église, il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est lui qui bâtit l'église. C'est lui qui bâtit l'église. Et c'est à lui ce matin que nous rendons un culte. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut bien s'attacher dans notre cœur. C'est à Jésus-Christ que nous rendons un culte. Et c'est lui qui est le fondement de l'église et qui en est la base. Tant des juges, il y avait de gros problèmes. Lorsque Gédéon était là, il y avait la paix pendant 40 ans. Lorsque Déborah était là, il y avait la paix pendant 40 ans. Et à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, ces hommes ou ces femmes disparaissaient, alors le peuple retournait à l'idolâtrie. Que ce ne soit jamais le cas de l'Église de Jésus-Christ. Qu'entre la croix et nous, il n'y ait jamais des bonhommes. Passez-moi l'expression, de quelque nature qu'ils soient, aussi respectables soient-ils, que ce soit des frères, des sœurs, des ministères, ou que ce soit des histoires quelconques, que ce soit des sensations. On ne fonctionne pas à coup de sensations, mais qu'entre la croix et nous, il y a un lien direct et que nous soyons collés à la personne de Jésus. Que ce soit l'œuvre de Jésus qui dicte notre foi, qui conduise notre foi. Que ce soit l'œuvre de Jésus qui conduise notre attachement à l'Église. Parce que nous avons vocation à être attachés au corps, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais cela va de soi. Un membre, une main ne peut pas vivre indépendamment du corps. Essayez de couper votre main, vous, et de l'amener se balader dans le jardin avec les enfants. Vous verrez qu'elle ne bougera plus au bout d'un certain temps. La seule raison pour laquelle elle bouge, c'est parce qu'elle est attachée au corps. C'est tout. Et vouloir se désolidariser du corps, c'est se désolidariser de la tête, qu'on le veuille ou non. Et à un moment ou à un autre, la sanction est imminente, la main meurt. Mais que notre foi elle, soit attachée directement, eh bien, à la tête, je dirais, et qu'on puise notre force de Jésus, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Troisième chose, parce qu'il faut que j'avance un petit peu quand même, c'est tout simplement le péché. Dieu est saint, je le rappelle, et profondément saint, parfaitement saint. D'où cette expression que l'Ancien Testament utilise, trois fois saint. Dieu n'est pas trois fois saint, parce que ça voudrait dire qu'on peut être plus que saint, 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 hein, mais c'est une formule poétique pour l'expliquer. Et nous, nous sommes profondément sales. Comment réunir les deux ? Tout simplement en Jésus. Et à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, le péché vient dans ma vie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une petite séparation qui se crée. Et vous savez, une séparation, ça ne vient pas d'un seul coup. C'est un petit peu dans un couple. Hein. On n'arrive pas à une situation, entre guillemets, de crise d'un seul coup. Mais c'est quand on amoncelle les petits problèmes qui ne sont pas réglés, les petits défauts de communication. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des fossés qui se creusent. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on lit le psaume 1er, on s'aperçoit que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient heureux. Heureux, l'homme qui ne marche pas. Et ensuite, on a une gradation. Qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Et je dirais que pour les chrétiens, c'est exactement la même chose. Heureux l'homme qui marchait, c'est entrer dans une mauvaise voie. C'est à un moment donné, mes yeux se fixent sur quelque chose, je la désire, je la veux, et puis j'y mets les mains. Et, je quitte le micro, d'un côté je tiens la croix, je tiens ma relation avec Jésus, et de l'autre, je tiens quelque chose que je n'ai pas à tenir. Et j'y arrive pendant un certain moment. J'arrive à conserver ma foi. J'arrive à conserver ma relation avec Dieu. J'arrive à croire que Jésus est encore capable de me pardonner. Et il le fait dans son amour, il me l'a promis. Et puis à un moment donné, eh bien, que se passe-t-il ? Je m'arrête. C'est-à-dire que je contemple vraiment beaucoup la chose. Et vous voyez ce qui se passe, la croix... Et puis, je m'assieds. La croix est là-bas. Jésus est là-bas. Je suis ici. Et entre lui et moi, il y a toutes sortes de culpabilités. Il y a toutes sortes de blessures. Il y a toutes sortes de déceptions. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arbre. C'est aussi valable, et là je transpose, pour la vie chrétienne. Un peu de compromis, un peu mes yeux se posent, un peu je vais toucher, un peu je vais jouer, et un peu je me retrouve dans le lit d'un autre, ou dans le lit d'une autre un jour. Un peu je regarde, une bouteille, un peu je rigole parce que mes copains, eh bien, sont parfois dans de sales états, et un peu je me retrouve dans les mêmes queues. Un peu. Un peu je m'éloigne de Jésus. Et un petit peu je perds tout. Problème, ce n'est pas forcément le péché en lui-même. Mais c'est la pratique du péché et c'est l'amour qu'on lui voue. On pourra toujours se remettre d'un mensonge. Mais on ne pourra difficilement se remettre de la culpabilité que génère la pratique du mensonge. C'est toute la différence. Et ce n'est pas de la moralisation. Mais quand je suis dans cette position-là, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus en sécurité. Je perds ma paix, je perds ma joie, je perds les sentiments qui honorent Dieu. Dans cette position-là, vous remarquerez que moi, ça m'est arrivé d'y être, hein, même en tant que chrétien, qu'est-ce qui se passe? Notre sale caractère revient à la surface. Les fruits de la chair reviennent à la surface. La jalousie, la colère, la haine, la violence. Tout notre passé nous rattrape. C'est ainsi. Mais heureusement, qu'il y a toujours possibilité de retrouver la croix. Hein ? Heureusement, comme je l'ai dit, elle ne bouge pas. Elle est toujours là. Toujours là. Et en conclusion, je dirais deux choses. La première, méfions-nous, nous sommes tous susceptibles à un moment donné de quitter la croix. On est tous susceptibles à un moment donné de ne plus être en Jésus, de ne plus être cachés en Jésus. Et ce n'est pas les grosses tempêtes qui nous font tomber. Parce que les grosses tempêtes, elles ont plutôt vocation à nous coller à Jésus. Mais le problème, c'est quand on a des petits coups de laxisme, vous savez, et qu'on s'éloigne, qu'on ne tient plus que d'un doigt et qu'il y a une grosse tempête. Alors là, par contre, on se retrouve seul et on se demande « Mais Seigneur, m'as-tu abandonné ?» Et la réponse, elle est bien différente, c'est « Non, c'est toi qui m'as abandonné. » Seigneur Jésus, donne-moi de veiller et de prier. Donne-moi de veiller sur ma propre vie, de veiller sur mes propres poutres. Seigneur Jésus, donne-moi de veiller sur mon propre caractère, donne-moi de veiller sur ma propre relation avec toi. La deuxième chose que je dirais dans cette conclusion, c'est que peu importe là où on en soit, si je suis en Jésus, pour revenir en Jésus, je n'ai qu'à revivre cette repentance. Demander pardon à Jésus pour tous les petits détails. Pourquoi, dans notre conception, j'ouvre une petite parenthèse, ne doit-on demander pardon que pour les gros péchés ? C'est fou ça ! On ne doit demander pardon que pour les grosses fautes. Et les autres, comme si les autres étaient tolérables. Et vous souriez, mais je suis sûr que c'est quelque part, c'est ce qu'on fait. Hein ? Une parole blessante pour sa femme, c'est aussi grand, c'est grave, et ça mérite une demande de pardon. Et vice-versa, mesdames, pour vos maris, hein, entre nous soit dit. Hein. Soyons justes, on est à l'heure de la parité. En revanche, lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous sommes revenus en Jésus, écoutez bien ça, nous ne risquons rien. L'œuvre de la croix, elle est parfaite. À partir du moment où ton couple est en Jésus, il ne risque rien. À partir du moment où toi-même tu es en Jésus, la tempête peut venir, les difficultés peuvent être là. Si tu t'accroches à lui de tout ton cœur, si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu ne risqueras rien. Oui, tes larmes pourront parfois couler parce que tu verras des choses qui te blesseront. Oui, ça te frustrera de voir peut-être tes enfants dans des difficultés et de ne pas pouvoir aller les chercher, de ne pas pouvoir aller les aider parce que finalement ils sont grands, ils sont libres et c'est quelque chose de terriblement difficile. Oui, ça te blessera certainement de voir des choses que tu ne peux pas maîtriser, sur lesquelles tu ne peux pas interagir. Mais là, tu auras le plus grand trésor qui soit. Tu seras tranquille à l'intérieur. Tu connaîtras la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et en observant, en étant en Jésus, eh bien, tu verras l'œuvre du Maître se manifester. Tu verras l'œuvre du Maître se poser. Le seul problème, c'est que lorsque l'on voit ça, bien souvent, et c'était un autre point, mais je le développe quand même un petit peu, et vous me pardonnerez pour les quelques minutes de retard que j'aurai, eh bien, c'est que tout simplement, nous faisons comme le peuple d'Israël. Plutôt que de rester dans le calme et la confiance, nous lâchons la croix et nous allons saisir. Et nous allons essayer de secouer l'autre. Et résultat des courses, qu'est-ce qui se passe ? On se noie avec lui. On perd notre paix. On essaie d'agir de manière complètement humaine. On essaie des tactiques, des techniques. Non, c'est pas la peine d'aller voir les Égyptiens ou les Assyriens pour qu'ils te protègent avec leurs chars. Et leurs armées, c'est le contexte du verset que je viens de citer dans le livre du prophète Ésaïe. Non, reste auprès de Jésus. Reste blotti tranquillement et tu le verras agir, tu n'y peux rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Quand on peut faire quelque chose, de grâce, faisons-le. Si vous êtes malade, si vous avez mal à la tête, prenez un efferalgan, hein, d'accord ? Ça vaudra beaucoup mieux, soyons raisonnables. Hein ? Mais il y a certaines situations sur lesquelles on ne peut rien faire. On ne peut pas agir, c'est comme ça. Alors restons posés en Jésus. Restons fermes en Jésus. Observons-les, que ce soit nous qui les dominions. Une dernière petite anecdote, et je conclurai presque là-dessus. C'est mon père qui me l'a raconté. À un moment donné, il a eu l'occasion d'aller visiter un homme, et cet homme fumait 3 paquets de cigarettes par jour. C'était énorme, il passait son temps à ça. Et cet homme se convertit, et puis demande à être baptisé. Alors, papa lui dit, écoute, pour être baptisé, ce serait bien que tu arrêtes de fumer quand même. Il a dit, oh, mais c'est déjà fait. Ah, très bien, bon, alors, sur ce, pas de problème, on baptise. Puis, quelques temps après, papa repasse chez lui. Et puis là, il voit un paquet de cigarettes. Alors, assez gêné, il dit, mais frère, je pensais que... Ah, il m'a dit, mais j'ai arrêté, mais ce paquet de cigarettes... Ah, mais c'est plus un problème. Avant, c'est lui qui me disait « fume-moi », maintenant, c'est moi qui lui dis « je ne te fumerai pas ». Bien sûr, on lui a conseillé de le jeter. Hein. Mais pourquoi est-ce que je dis cela ? C'est parce que quand on est en Jésus, blotti bien auprès de la croix, couvert par l'œuvre, par son œuvre, hein, que se passe-t-il ? On peut dire à l'épreuve, à la montagne hein, qui est devant nous, « tu partiras, d'une manière ou d'une autre, je sais que mon Dieu sera vainqueur ». Parce qu'il me l'a promis, parce qu'il a tout accompli au bois de la croix. L'œuvre de la croix, c'est au présent qu'elle se décline. Tandis que quand je suis en dehors de Jésus, vous avez compris tout à l'heure que le pupitre, c'est la croix. Hein. Enfin, du moins, le micro, c'est la croix. C'est l'épreuve qui me dit, je vais complètement t'écraser. Je vais complètement te broyer. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Alors, mon frère, ma sœur, voilà, ton maître, il est tout puissant. Ton Dieu, il est tout puissant. Ton ami est tout puissant. Et surtout, il a tout payé. Il a déjà tout accompli. Tout est déjà fait. C'est au présent que ça se décline. Tout est déjà fait. Alors que l'épreuve s'en aille ou qu'il te donne la possibilité de le surmonter. Enfin bref, ça c'est une autre prédication, je ne la ferai pas. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce. Et restez en Jésus, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, restez sous la tête. C'est elle qui compte. Un point, c'est tout. Amen. Te bénissons pour la grâce qui est en toi, nous te bénissons pour la joie que nous avons en toi, te bénissons pour la gloire, Seigneur, que tu nous as réservée, que tu nous as donnée. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la famille de Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'Église. Seigneur mon Dieu, merci pour le bien que tu nous y as fait ce matin. Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin que les épreuves, ne nous décollent jamais de la croix, mais que nous puissions, à la croix, connaître vraiment un renouvellement, que nous puissions auprès de toi, Seigneur, connaître un renouvellement, que nous puissions être cachés en toi, cachés auprès de toi, blottis dans tes bras. C'est ça que nous voulons. Seigneur mon Dieu, nous voulons dominer sur nos épreuves en toi. Seigneur mon Dieu, et non pas qu'elles dominent sur nous. Nous ne voulons pas qu'elles aient un impact sur notre foi. Mais Seigneur, nous voulons au contraire que ce soit nous, Seigneur mon Dieu, qui puissions les regarder les yeux dans les yeux. Seigneur, fais-nous grâce, aide-nous. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont peut-être décollés de la croix, qui sont peut-être, Seigneur mon Dieu, en dehors de la croix. Seigneur mon Dieu, qui ont quitté, Seigneur mon Dieu, et qui sont écrasés. Je te prie pour qu'il y ait une pensée de Dieu, pour qu'il y ait une parole de Dieu qui remette toutes choses en place. Dans le nom de Jésus. Amen.